et Lormanodou qui accélère, Lormanodou qui termine, Lormanodou est champion du monde.
Pas ça Zinedine, oh non pas ça.
Regardez l'équipe de France qui fait la saga.
Has the power to change the world. It has the power to unite people.
Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver dans l'émission Vivons Sport sur Cause Commune. Je rappelle que vous pouvez nous suivre sur 93.1 FM à Paris et en Ile-de-France et partout ailleurs sur causecommune.fm. Vous retrouverez les podcasts sur l'application Cause Commune et l'application Apple Podcast sur le site et les réseaux sociaux. Merci par avance pour vos remarques, vos annonces, vos questions sur le compte Facebook de l'émission, sur mon compte Twitter X et mon compte LinkedIn, Karine Bloch, et sur le chat sur le canal Vivons Sport. Depuis le début de l'année, à l'approche des Jeux, nous nous intéressons beaucoup aux sportives et sportifs de haut niveau. Parmi les sujets abordés, la reconversion, les liens des jeunes avec le sport, la relation triangulaire enfant-entraîneur-parent pour les enfants en recherche de performance. L'engagement, la santé mentale, les violences sexuelles, la reconstruction, pour certains, par le sport. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons continuer à appréhender des enjeux sociétaux autour des championnes et champions. Nous recevons des invités qui, à quelques jours des Jeux Olympiques et Paralympiques, ont publié des livres ou organisent un colloque. Des initiatives qui sont toutes à impact social. Nous allons ainsi parler d'égalité femmes-hommes, de visibilité, d'inclusion, mais aussi de maltraitance. Nous sommes heureux de recevoir Marie Lopez Vivanco. Bonjour Marie.
Bonjour Karine.
Tu es auteure, réalisatrice, photographe, tu es déjà venue d'ailleurs dans l'émission et tu viens aujourd'hui nous parler du livre « Championne, les Françaises aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques » qui vient de paraître aux éditions Ramsay. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir Tess Armand. Bonjour Tess.
Bonjour Karine.
Tu es directrice générale de l'association Alice Milia. Tu vas nous présenter le livre « Merci Alice, de l'ombre à la lumière ». Portrait de championne olympique et paralympique française, écrit en collaboration avec Femmes journalistes de sport qui vient de paraître aux éditions Solar. Nous sommes contents aussi d'être en studio avec Marc Davidovici, c'est bien prononcé ? Sinon, il faut corriger. Bonjour.
Davidovici, bonjour Karine.
Alors toi, tu es président délégué du club INSEP Alumni. Ce club rassemble principalement tous ceux qui, à un moment de leur vie, ont effectué ou effectuent un passage au sein de l'INSEP. Et je rappelle, ça on l'a souvent rappelé dans l'émission, que l'INSEP, c'est l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance, communément appelé l'usine à champions. Tu as été athlète de haut niveau, notamment 6 fois champion de France, en relais 4x100 et 4x200. Et avec toi, nous allons parler du colloque Parasport, un passeport pour l'emploi qui se tiendra ce mardi, le 25 juin, au Comité National Olympique et Sportif Français. Et nous avons aussi la chance d'être en ligne avec Simone Thierrot. Bonjour Simone.
Bonjour Karine.
Tu as été handballeuse professionnelle, vainqueur du championnat de France de D2 en 2010, finaliste de la Coupe de France, internationale en France chez les jeunes, puis pour le Congo. Tu es aujourd'hui autrice et infographiste, mais tu viens surtout nous parler du livre « L'image du sportif parfait, paru en janvier. Et tu seras un peu notre fil rouge, hein, parce que tu es concerné par chacune de nos parties. Merci à toi. Un très grand merci à Olivier Grieco pour la réalisation de cette émission. Et nous allons commencer donc à parler des sportifs de haut niveau, des championnes. On va commencer par toi, Tess. Est-ce que tu peux déjà nous rappeler ce qu'est l'association Alice Milia ? Alors, on avait déjà reçu pour la fondation Marion Salas en 2019, je crois. Aurélie Bresson, qui est la présidente de la fondation. Est-ce que tu peux nous resituer tout ça, l'association, et puis qui est cette fameuse Alice ?
Oui, bien sûr. Donc, l'association Alice Milia, elle a été créée en 2015, en fait, avec comme mission principale au départ vraiment visibiliser les sportives qui avaient une place très peu importante dans les médias. En tout cas, c'était le constat qu'avaient fait les cofondateurs de l'époque. Et ensuite, la mission a un petit peu évolué, puisque pour parler de visibilisation, de médiatisation, on ne peut pas ne pas aborder toutes les problématiques qui sont liées à ce manque de visibilité, donc les inégalités et les discriminations de genre dans le sport. Donc au final, c'est tout un tas de problématiques liées à l'égalité femmes-hommes dans le sport qui ont émergé. Et donc comme symbole fort, c'est Alice Mia qui a été choisie pour représenter cette mission-là, puisqu'Alice Mia, ça a été une pionnière du sport en France et au niveau international. Ça a été une des premières dirigeantes. C'est une femme qui a beaucoup milité pour que les femmes puissent participer à toutes les activités sportives et pas seulement des activités vues comme étant correctes à l'époque. Et c'est un peu grâce à elle que les femmes ont pu se faire une place aussi aux Jeux Olympiques, notamment en athlétisme. Donc c'était un beau symbole pour tout ce combat qu'elle a mené il y a un siècle.
Donc là, effectivement, ça fait un petit moment maintenant que vous êtes créé, vous avez mené un certain nombre de projets. Et donc, pourquoi et qu'est-ce qu'il y a dans ce fameux livre Merci Alice, de l'ombre à la lumière, portrait de championnes olympiques et paralympiques françaises. Je reprends tous les titres parce qu'il ne faut pas s'y perdre. Alors, est-ce que tu peux nous le présenter ?
Alors, c'est un livre qui est assez complet et qui remplit plusieurs objectifs qu'on avait à cœur de... d'atteindre. Donc déjà, c'est une collaboration, comme ça a été dit, avec l'association Femmes Journalistes de Sport. Et il y a cet objectif à la fois de valoriser des parcours de championnes olympiques et paralympiques qui sont encore très méconnues pour la plupart, mais aussi de faire écrire ces portraits par des femmes journalistes de sport qui sont encore très minoritaires dans les rédactions sportives aujourd'hui. Et donc, d'où ce travail avec l'association Femmes Journalistes de Sport, où il y a eu un challenge de mobiliser aussi 80 journalistes pour que chacune écrive un portrait avec voilà, des parcours de vie, de médailles très différents. À la fois, il y a des sportives, évidemment, qui sont décédées, d'autres qui sont toujours en vie, mais qui ont été un peu dures à retrouver. Et la manière dont le livre, il est... écrit, où les portraits sont écrits, c'est le jour où. Donc c'est Mejdaline Miri, qui est rédactrice en chef du livre, qui a aussi choisi ce prisme-là d'aborder le jour où elles ont eu la médaille, ces sportives, et qu'elles racontent quelque chose qui les a marquées en lien avec cette médaille, en fait. Donc c'est pas un livre de biographie qui fait état de leur palmarès, mais vraiment des récits qu'elles ont elles aussi choisi de mettre en avant en lien avec cette médaille qu'elles ont eue, cette médaille d'or. Donc on s'est focalisé que sur les médaillées d'or, parce que sinon il aurait fallu écrire beaucoup plus de livres que ça, donc c'est une première étape aussi.
Alors toi Marie, je crois que c'est un autre prisme que tu as choisi. Est-ce que tu peux nous parler de ton livre, Championne, les Françaises aux Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques, donc.
Alors, la particularité, c'est qu'on parle de championnes qui ont vécu les Jeux Olympiques et Paralympiques. Elles n'ont pas forcément gagné de médaille, mais elles ont vécu l'aventure. Donc, il est assez complémentaire à celui de Merci Alice, parce que alors nous on raconte un peu leur parcours, comment elles sont venues au sport, comment on arrive aux Jeux Olympiques, à participer aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Il y a beaucoup de femmes dans l'ombre qu'on ne connaît pas. Et ça, c'était important pour moi, en tout cas, de parler de celles-là, parce qu'on voit toujours celles qui sont dans la lumière, celles qui gagnent. Et c'est important de montrer que derrière la médaille olympique, déjà d'arriver à l'olympisme, c'est déjà un grand parcours. Et certaines comme Surya Bonaly qui ont une carrière extraordinaire, n'ont pas eu de médaille. Et puis d'autres, surtout en paralympique, on en parle beaucoup moins. Et donc il y a des parcours comme Erika Sozo qui a été abandonnée à l'âge de 5 mois par ses parents et qui arrive avec une médaille paralympique qui est plus qu'un accomplissement sportif, hein, c'est un projet de vie.
Et alors, l'une et l'autre, comment ça a été reçu auprès de ces championnes? Et donc, on n'a pas un livre, mais deux qui sortent en ce moment. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'il y a ce besoin, ou pas, mais de traiter de livres spécifiquement sur des championnes?
Tu veux commencer?
Ouais, alors déjà, c'est 4,8% de médiatisation.
C'est pour ça que dans mon ou pas, vous avez compris.
De sport féminin. Donc, je pense qu'il est même primordial. Hein. C'est de la réanimation à ce stade-là.
Donc, on n'est pas en surdosage avec vos deux livres.
Ah, voilà.
Non, on est loin du compte, je pense.
Ouais, et puis bon, il y en a d'autres. Il y a des consoeurs qui ont aussi sorti, dont un livre de Laurie Delestal, qui s'appelle Championne aussi. Et plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Et puis on en parlera et mieux ce sera.
Oui, c'est vrai qu'avec le timing des Jeux Olympiques et Paralympiques, on a énormément d'ouvrages qui sont sortis cette année, mais au final, c'est pas un trop-plein. Au contraire, ça rattrape un petit peu les années d'avant. Je suis d'accord avec ce que dit Marie. Quand on regarde le pourcentage, on est bien loin du compte. Et il y a des angles d'attaque qui sont assez différents aussi, finalement. Donc ça permet d'avoir vraiment une vision complète.
Par contre, vous avez fait le choix, toutes les deux, de faire Jeux Olympiques et Paralympiques. Ça aurait pu être l'inverse, finalement. Vous auriez pu avoir des champions et championnes de l'un ou de l'autre, valide ou en parasport. Mais vous avez fait le choix de parler des deux Jeux, mais de séparer parce qu'il y a ce manque de visibilité encore.
Des paras, c'est vrai que les paras, on en parle encore moins. Et de faire un livre sur que des... Alors, on parle de personnes ordinaires et extraordinaires, plutôt que valides et non-valides, c'est ce qu'ils préfèrent. Ouais. Mais c'est vrai que ça aurait clivé encore. Et finalement, c'est... Voilà, par exemple, Paris 2024, c'est les paras et les JO. Donc, c'était important de scinder, justement de les regrouper.
Tout à fait. Et nous, on s'est vraiment confronté à des grosses barrières sur la recherche qu'on a dû effectuer pour retrouver la trace de toutes les championnes paralympiques. On a travaillé avec le CNOSF, le CPSF. On a contacté aussi la Fédération d'e-sport. Et en fait, malgré tout ce travail-là, on sait qu'il y a des championnes dont on n'a pas réussi complètement à retrouver la trace. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi un portrait qui leur sont dédiés dans le livre pour rendre hommage à toutes ces championnes dont on n'arrivera malheureusement jamais à retrouver la trace parce que soit il manque un nom, un prénom, soit il y a des incertitudes sur les disciplines dans lesquelles elles ont eu des médailles. Soit on n'a pas d'image du tout non plus. Ça a été vraiment très très compliqué, pour être tout à fait honnête, sur trouver des images de championnes paralympiques d'il y a 60 ans, 50 ans. Donc ça a été en tout cas, on considère que c'est une réussite qu'on ait pu en rassembler autant.
Et même pour les photos d'ailleurs. Parce que les photos, il y a les paras, il y a certaines photos, on a eu du mal à les trouver.
Oui, je parle,
parce que quand on demande à l'équipe des photos des paras, ils nous disent c'est qui cette personne? On la connaît pas. Donc, ça fait partie des difficultés.
Donc, on parle des problèmes de visibilité, effectivement. Et nous, on avait aussi envie de faire connaître Simone Thierrot. Simone, tu es toujours avec nous. Et toi, tu es sur tous les sujets de l'émission, donc c'est formidable. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire? Donc, j'ai juste dit que tu es handballeuse professionnelle, mais tu as plein d'autres choses à nous raconter.
Ancienne handballeuse professionnelle. Donc là, j'ai publié mon premier livre il y a quelques mois, donc L'image du sportif parfait, qui parle de la santé physique et mentale chez les sportifs de haut niveau. Donc, c'est un livre témoignage où tout le long, je fais le fil rouge, je fais mon témoignage. Et il y a le témoignage de plusieurs autres sportifs, champions du monde, champions olympiques, eux qui vont parler de la dépression dans le sport. Moi, j'ai beaucoup parlé du handicap parce que j'ai fait toute ma carrière de handballeuse dans le secret de mon handicap. Je suis en situation de handicap et c'est vrai que pendant toute ma carrière, j'en ai jamais parlé. Et c'est vrai que c'est quand j'ai arrêté le handball très jeune, donc à 25 ans, que là, beaucoup de monde vont me poser des questions de pourquoi j'ai arrêté, c'est dommage, je suis jeune. Donc de là, je vais commencer à sortir du silence. Et c'est vrai que quand je sors du silence, j'ai encore plus de questions. Donc de là, je me dis, je vais écrire. Je vais écrire, ça sera plus simple pour me faire comprendre. Parce que dire que tu es en situation de handicap et que tu as eu une carrière de handballeuse professionnelle C'est compliqué à faire comprendre aux gens. Donc, sachant que moi, j'ai mon handicap, c'est sur un de mes bras. J'ai une paralysie partielle sur le bras droit dû à un accident à la naissance. Donc, c'est le médecin qui a tiré sur le bras, donc le bras a cassé. Et voilà. Donc, moi, je vais faire toute ma carrière dans le ballot comme ça. Et je retranscris tout ça dans ce livre.
Mais tu étais dans le championnat, je ne sais pas comment il faut dire, mais des personnes qui avaient toutes leurs facultés.
Fait, moi j'ai toujours joué avec les valides parce que ça n'existait pas, tout ce qui était handball adapté il y a encore 20 ans en arrière. Le handball adapté, c'est très très récent et en plus, ce qui existe, c'est le handball fauteuil et le handball sourd. Il n'y a toujours rien pour le handicap invisible à ce jour. Donc, même si là, j'avais 10 ans et que je commençais le handball, je me retrouverais encore avec les valides vu qu'il n'y a toujours rien pour le handicap invisible qui représente quand même 80% des situations de handicap. Et c'est vrai que pour l'instant, dans les sports collectifs, en tout cas, on est les grands oubliés, quoi.
Et pour la visibilité des femmes, alors si on revient sur notre sujet, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que le handball féminin, c'est... Ou pourtant, où on brille, en tout cas, dans le handball féminin en France, qu'est-ce que tu penses de la médiatisation ?
C'est vrai que, sachant qu'au handball, oui, il commence à avoir pas mal de médailles. C'est vrai que la médiatisation, quand même, par rapport à il y a 10 ans en arrière, ça commence à arriver. Le championnat qui passe sur Bein Sport, mais bon, c'est seulement un match sur un week-end qui passe à la télé. Ensuite, là, dernièrement, on a eu la chance de passer sur TF1 ces dernières années parce que vu que les filles, elles allaient en finale. Ça avance, mais vraiment tout doucement, quoi.
Donc, il y a encore un peu de boulot. Alors, on va reparler de tout ça et de parasport après la pause musicale. Mais une pause musicale qui a été suggérée par Marie. Est-ce que tu te rappelles de ta pause, de ce que tu as choisi? Et tu veux nous expliquer? Est-ce qu'il y a quelque chose à expliquer, d'ailleurs? Je te laisse.
Moi, je vous laisse l'écouter et il n'y a rien à dire. Hein.
Si, il faut que tu nous la rappelles. Il faut quand même que tu nous donnes le nom.
Alors, le titre,
je redonne.
Donc, c'est Cyndi Lauper, Girls Want to Have Fun.
Donc, on l'écoute et il paraît qu'il n'y a pas d'explication à donner.
vous êtes bien sur Cause Commune dans votre émission Vivons Sport. Notre émission est sur des œuvres et colloques à impact sociétal autour de championnes et champions. Il est question notamment d'égalité femmes-hommes, d'inclusion, de parasport, de lutte contre les maltraitances physiques et psychiques des enfants. Nous sommes toujours en studio avec Marie Lopez Vivanco, auteure du livre Championne les Françaises aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques qui vient de paraître aux éditions Ramsay. Tess Armand, DG de l'association Alice Milia, avec Femmes Journalistes de Sport, a produit le livre « Merci Alice, de l'ombre à la lumière, portrait de championnes olympiques et paralympiques françaises » qui vient de paraître aux éditions Solar. Avec nous également en plateau, Marc Davidovici, président délégué du club INSEP, alumni, co-organisateur du colloque « Parasport, un passeport pour l'emploi » mardi prochain. Nous sommes toujours en ligne avec Simone Thierrot, ancienne handballeuse professionnelle chez les Valides avec un handicap invisible, auteur du livre « L'image du sportif parfait » paru en janvier. Et donc, Marc, toi, tu es resté sagement à écouter, mais on va parler maintenant du colloque que le club INSEP Alumni organise. Déjà, est-ce que, moi, j'ai dit deux, trois mots sur le club, mais est-ce que tu peux nous en dire quelques mots de plus?
Oui. Alors, d'abord, je voulais dire que moi, je suis président délégué. Le président est Stéphane Traîneau, médaille olympique, champion du monde de judo, que tout le monde connaît. Et le président d'honneur, Maurice Souvion, dont tout le monde connaît aussi la carrière à la fois d'athlète et d'entraîneur, et qu'effectivement, dans les buts de l'association, tu as fait en préambule, tu as dit un petit peu ce que l'on faisait, on est aussi là pour soutenir le double projet des sportifs de haut niveau valides et handisports, en leur permettant, grâce à nos partenaires sponsors, de leur attribuer des bourses à la fois pour les aider pendant la période de préparation des compétitions et également pour les aider à la reconversion, puisque certains de nos partenaires peuvent après leur proposer des stages, des formations, voire des emplois. Donc voilà, donc on a eu l'idée cette année, alors on remet aussi tous les ans deux grands prix lors de notre cérémonie des trophées qui aura lieu cette année le 11 décembre à l'INSEP, en dehors des prix de nos partenaires, dont le prix de la Fondation Aéroport de Paris, le Crédit Mutuel et d'autres partenaires. On remet aussi deux grands prix qui sont le prix de la meilleure reconversion pour un entraîneur ayant fait un beau parcours. Donc on a remis à des entraîneurs très célèbres, comme notre entraîneur de football actuel, Monsieur Deschamps, ou Laurent Tilly au volet, voilà. Et puis un autre grand prix qui est le prix de Micheline Ostermeyer, femme... admirable, qui doit être dans, voilà, j'imagine, femme admirable, moi, pour qui j'ai eu beaucoup d'admiration, qui était donc médaille olympique à Londres en 48 et en plus qui était championne olympique en athlétisme. Et donc, voilà, ces prix sont remis tous les ans, en plus des bourses à nos sportifs. Et cette année, nous avons, en partenariat avec l'OCIRP, un de nos partenaires qui déjà soutient depuis deux ans deux sportifs handisport, deux athlètes, Lucille Razet en athlétisme et aussi en longueur, Valentin Bertrand. Valentin qui est déjà qualifié pour les Jeux de 2024. Ces deux sportifs sont soutenus par l'OCIRP déjà depuis deux ans. Et donc on a eu l'idée avec eux d'organiser ce colloque sur le parasport, parce qu'on a considéré qu'il fallait mettre un peu plus en lumière aussi les parasportifs. Qui véhicule peut-être des soft skills, comme on dit maintenant, peut-être encore plus valorisants que ceux des valides, je veux dire. Et donc, et d'ailleurs, à ce propos, nous, le club INSEP, parmi les gens que l'on récompense aujourd'hui, on a à peu près 40% d'handisports récompensés par les bourses de partenariat. Donc voilà, ce colloque organisé avec organisme de prévoyance qui est l'OCIRP va se tenir donc au Comité Olympique Français mardi 25 sur toute la journée avec des tables rondes, donc avec les instances Fédération Française Handisport, Fédération du Sport Adapté, la mairie de Paris, les entreprises partenaires, des entreprises qui sont là pour aider les sportifs, et puis une table ronde avec nos sportifs, ceux que nous le club INSEP Alumni, nous aidons, qui seront là aussi pour débattre des problèmes qu'ils rencontrent dans la préparation des Jeux, entre autres.
Alors, on a fait plusieurs émissions ici, évidemment, sur le parasport, mais peut-être, parce qu'on a utilisé des termes là depuis le début de l'émission, handisport, sport adapté, est-ce que tu peux nous réexpliquer
Alors, disons
ce qui va dans l'un, ce qui va dans l'autre.
Oui, alors disons que le sport, l'handisport, bien j'allais dire, ce sont toutes la plupart des déficiences physiques que l'on peut rencontrer donc chez un sportif ou une sportive.
Et sensoriel aussi.
Et sensoriel, oui. Et par contre, le sport adapté, c'est plus des déficiences neurologiques, en fait, qui entraînent donc des comportements et des maladies, j'allais dire, puisqu'on peut parler quand même de termes de maladies, qui touche un peu plus le côté neurologique et les conséquences que ça peut avoir sur, sur le langage, sur la compréhension, sur l'intelligence, sur tous ces problèmes-là.
Ce qui est psychique, mental.
Voilà, absolument. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, parmi les gens que nous supportons depuis déjà plusieurs années, il y a un judoka qui n'ira malheureusement pas au jeu, qui est champion du monde de judo, et parce qu'il est non-voyant. Et que sa discipline n'est pas représentée au jeu, et il en est très malheureux. Je crois même qu'il est double champion du monde, et c'est quelqu'un d'admirable à tout point de vue, et malheureusement, il ne sera pas aux Jeux Olympiques de Paris.
Alors, le colloque est tourné vers la reconversion des parasportifs, je crois. Il est ouvert à tous, il y a encore des places.
Il est ouvert à tous et gratuit. Il se passe sur la journée de 9h à 17h avec un cocktail au milieu, gratuit également, donc au Comité Olympique français. Et nous sommes, je crois, à 4 jours de l'événement, nous sommes à 250 inscrits, ce qui est quand même bien, parce que l'amphithéâtre contient 300 personnes, donc on est presque à saturation. Donc c'est une belle réussite dont on est très content et qui va mettre en avant justement le handisport qui a besoin. Il y a déjà la vitrine des Jeux qui est une belle vitrine pour le handisport, le parasport. Et donc nous allons mettre en lumière aussi ces athlètes et ces disciplines.
Et donc, s'il y a des entreprises qui sont intéressées pour découvrir le potentiel des parasportifs, c'est le moment de venir au comité.
Alors, déjà, exactement, c'est le moment de venir, de nous rencontrer. On leur expliquera toutes les différentes possibilités que nous offrons d'aide à ces sportifs, des différents partenariats qui existent. D'ailleurs, je tiens à dire, tout à l'heure, j'ai cité le groupe ADP, qui nous aide depuis déjà plus de 10 ou 15 ans, en supportant pas mal d'athlètes, dont la moitié parasport. Et cette année, l'année des Jeux, ils ont décidé d'accompagner 6 sportifs de haut niveau supplémentaires, dont la moitié parasportifs, et qui vont être accompagnés par eux jusqu'aux Jeux de Paris.
Et donc, ceux qui veulent s'inscrire, comment
alors,
ils font
ceux qui veulent s'inscrire.
Nous, on peut mettre le lien sur nos réseaux, mais
oui,
il faut nous donner l'autorisation.
Alors sinon, effectivement, il faudrait que je donne mon adresse mail éventuellement, mais
il s'adresse à nous et on...
Voilà, le plus simple, c'est ça, voilà, exactement, et il y a de la place encore.
Simone, qu'est-ce que tu en penses de cette question de reconversion, notamment pour les parasportifs, et les sportifs d'ailleurs?
Oui, la reconversion, j'en parle beaucoup dans mon livre justement, parce que c'est vrai que pendant notre carrière, en tout cas dans le monde du handball, on se pose pas trop de questions sur tout ça, sur les études, on est très focus sur l'aspect sportif, et c'est vrai qu'on pense pas trop à l'après-carrière, et c'est vrai que quand on arrive, on arrête, on se dit qu'est-ce que je vais faire. Il y a des joueuses qui se retrouvent à se dire je suis obligée de retourner au handball parce que je sais rien faire d'autre, et il n'y a pas forcément de suivi après. Donc, c'est vraiment une question qui se pose, et on n'a pas de suivi, il n'y a pas d'aide, on ne sait pas du tout vers qui se tourner, et ça c'est très très compliqué.
On essaye dans l'émission de temps en temps de mettre en avant, de parler de cette question de toute façon très régulièrement. On a fait une émission d'ailleurs, je crois que c'était en avril, sur ce sujet, pour parler des compétences transférables, notamment, et des dispositifs qui existent, mais c'est quelque chose, évidemment, qu'il faut sans arrêt faire, et la visibilité que vous donnez tous aussi aux champions et championnes, ça permet de donner envie aussi de découvrir toutes les compétences de nos sportives et sportifs. Il y aura aussi des parasportifs, hein, et parasportifs, bien sûr, je suppose, je n'ai même pas vérifié.
Je voulais rajouter d'ailleurs que ça s'appelle le passeport vers l'emploi, donc le but c'est quand même de leur montrer qu'il existe des passerelles vers l'emploi à ces parasportifs, mais ils ne sont pas forcément tous des sportifs de haut niveau, c'est-à-dire que ce colloque s'adresse exactement et aussi aux autres parasportifs qui ne sont pas des sportifs de haut niveau.
D'accord, donc ça c'est important aussi de le faire savoir. Donc on va continuer à parler de nos championnes et champions, mais cette fois on va faire une pause avec le choix de Tess. Est-ce que tu t'en souviens? Est-ce
que oui, ça m'a rafraîchi la mémoire tout à l'heure. Donc ça s'appelle Champions, c'est en anglais. J'ai choisi cette chanson parce que c'est déjà une chanson assez motivante en général, et comme on est quand même sur des secteurs où quand on parle d'égalité dans le sport, il faut souvent se battre et se retrousser les manches et se remotiver, elle donne de l'énergie, et puis elle parle en général de se relever, et je pense que dans la carrière d'une sportive ou d'un sportif, c'est aussi des choses qui arrivent souvent, donc d'où le choix.
On écoute Champion de Bishop Briggs. Alone in my car, I'm in a parking lot. Darkest spot in my mind, my tongue is dry. Why do I crumble quickly, stumble swiftly? Cursing myself, I burn the furniture. A million times in my head, I'm feeling low. Got nowhere to go, but back up again. You gotta get bruised before you get mad. You gotta fall down before you fight back. Was feeling so weak, but baby I'm strong. Little did I know, I'm a champion. I'm a champion. Said it'd be an easy ride. Obstacles in my way, scars never change. Why do I crumble quickly, stumble swiftly? Cursing the world, I burn the songs I wrote. A billion times in my head, I'm feeling low. Got nowhere to go, but back up again. You gotta get bruised before you get mad. You gotta fall down before you fight back. Was feeling so weak, but baby I'm strong. Little did I know, I'm a champion. I'm a champion. Fall down before you fight back. Was feeling so weak, but baby I'm strong. Little did I know I'm a champion. I'm a champion. I'm a champion. I'm a champion. Vous êtes bien sur Cause Commune dans votre émission Vivons Sport. Notre émission est sur des œuvres et colloques à impact sociétal autour de championnes et champions. Il est question notamment d'égalité femmes-hommes, d'inclusion, de lutte contre les maltraitances physiques et psychiques des enfants. Nous sommes toujours en studio avec Marie Lopez-Vivanco, auteure du livre « Championnes, les Françaises aux Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques » qui vient de paraître aux éditions Ramsay. Tess Armand, DG de l'association Alice Mia, qui, avec Femmes Journalistes de Sport, a produit le livre « Merci Alice, de l'ombre à la lumière, portrait de championnes olympiques et paralympiques françaises » qui vient de paraître aux éditions Solar.
Avec nous également en plateau, Marc Davidovici, président délégué du club INSEP Alumni, co-organisateur du colloque Parasport, un passeport pour l'emploi qui se tient mardi prochain au comité olympique. Et nous sommes toujours en ligne avec Simone Thierrot, ancienne handballeuse professionnelle chez Les Valides, avec un handicap invisible, auteur du livre « L'image du sportif parfait » paru en janvier. Et maintenant avec Pierre-Emmanuel Luneau-Dorignac. Bonjour Pierre-Emmanuel.
Bonjour à tous et toutes.
Je rappelle que tu es déjà venu nous parler de L'entraîneur et l'enfant, les abus sexuels dans le sport aux éditions du Seuil en 2021 et du document Violence sexuelle dans le sport, l'enquête. Ça date de 2020 et c'était déjà sur Arte. Mais aujourd'hui, ce sont des maltraitances physiques et psychologiques que subissent nombre d'enfants qui se dirigent vers le haut niveau dont tu vas nous parler. Sujet que tu traites très bien dans le documentaire de 90 minutes Futur Champion, le prix de la gloire que tu as réalisé et qui sera diffusé le 23 juillet sur Arte, juste avant les Jeux. Donc, on te remercie d'avoir pris quelques minutes avec nous parce que je sais que tu es très occupé cet après-midi. Alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as voulu faire ce documentaire ?
Merci à toi de m'inviter. Il y a toujours effectivement une qualité d'écoute et de prise de parole remarquable. Donc je suis ravi. Quand j'ai commencé à travailler sur la question des abus sexuels dans le sport, alors la première fois c'était un reportage en 2008 lorsque je travaillais en envoyé spécial et puis ensuite donc ce que tu as mentionné. Eh bien pendant toutes ces années effectivement les discours que j'entendais étaient des discours qui me montraient à quel point il y avait d'autres types de souffrances que subissaient les enfants, les mineurs, alors et aussi les adultes. Mais là moi je suis particulièrement intéressé par le sort des mineurs et qui sont des violences d'ordre physique et psychologique. Et en creusant cette question, en cherchant, en discutant d'abord avec les familles, avec des enfants eux-mêmes, en regardant les affaires qui étaient sorties ici ou là, et notamment en France, il y a cette affaire dans la gymnastique à Marseille, qui est la première du genre, hein, avec une condamnation à la clé au pôle France de Marseille. Eh bien, en discutant avec ces gens, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème qui était effectivement un peu passé sous le tapis. Et c'est aussi des recherches, ce qui m'a amené à faire ce documentaire, c'est aussi la confirmation de tous ces doutes, de tous ces indices que je réunissais, scientifiques, médicales, psychologiques, qui montraient des dommages, en particulier sur le plan physiologique, qui étaient gigantesques, et ce depuis très longtemps. Le syndrome bien connu qu'on appelle le female athlete triad, qui est donc cet ensemble de restrictions alimentaires qui amènent à une aménorrhée, une absence de règles, et chez les jeunes filles jeunes, une absence de puberté, qui se complète donc par de l'ostéoporose et donc par des blessures de fatigue au niveau osseux. C'est la female athlete triad est dénoncé depuis les années 90. La Société de pédiatrie américaine dénonce cela et demande à agir en 1992. Qu'est-ce qui a été fait depuis 1992 ?
Je te le demande. Je te le demande, qu'est-ce qui a été fait ?
La réponse, c'est pratiquement rien.
Donc on n'est pas passé à côté. C'est ce qui est fini.
Le CIO connaît ses études. Le CIO a développer cette problématique connexe un problème plus général qui est celui du RED, qui est donc le Energy Deficit Disorder, en mauvais français, en mauvais franglais, j'allais dire, et qui est un système plus large qui englobe en gros un déficit alimentaire qui peut causer divers symptômes qui vont jusqu'à aussi la dépression. Mais il n'y a pas de mesures contraignantes. Moi, je ne l'ai pas vu dans mon enquête qui m'a amené dans de nombreux pays, dans 6 pays. Je n'ai pas vu de mesures prises au niveau des fédérations nationales pour essayer de pallier ces problèmes-là et pour essayer de dire, écoutez les enfants, il faut manger, voilà, il faut pas de restriction alimentaire, pas de pesée interdite. Il a fallu la fameuse affaire du pôle de Marseille pour que la...
Est-ce que tu peux la rappeler, l'affaire du fameux pôle de Marseille, parce que être sûr que tous nos auditeurs voient de quoi on parle.
Alors, elle est très intéressante parce que c'est la première en France qui est véritablement une critique du système du haut niveau dans la gymnastique et du système du haut niveau, l'entraînement du haut niveau chez les mineurs en général. Donc il y a eu deux condamnations de deux entraîneurs. L'affaire qui a été la plus médiatisée est celle qui concerne un entraîneur qui s'appelle Vincent Pateau. Et cet homme, en gros, a été accusé par un groupe de jeunes filles qui a déposé plainte pour harcèlement moral au tribunal, de les avoir maltraitées, de les avoir insultées, de les avoir pesées, de ne pas avoir tenu compte de leur fatigue, des moments où elles disaient stop, de les avoir punies de façon traumatisante, enfin tout un cheptel de critiques. Dont il a expliqué, dont il explique dans le documentaire, puisqu'il a eu à la fois le courage et l'honnêteté, il faut le reconnaître, d'en parler très ouvertement, et bien tout un cheptel d'actes dont il n'imaginait pas qu'elles puissent avoir été aussi traumatisants. Lui le dit, Vincent Pateau lui-même, il dit je crois que j'ai pris pour le haut niveau. Et en d'autres franchises, c'est pas totalement faux. Il a eu des mots, il est allé un peu trop loin, mais on sait bien, dans la gymnastique comme dans beaucoup d'autres sports, qu'il y a des entraîneurs qui vont beaucoup plus loin. Une des choses les plus ahurissantes que j'ai entendues dans la bouche de Patrick Roux, ce n'est pas dans le documentaire, c'est partie des interviews.
Mais Patrick Roux est dans le documentaire, par contre.
Voilà.
Peut-être que tu peux nous dire qui c'est.
Cette chose-là, pour ne pas vous laisser en stand-by trop longtemps, c'est que c'est un entraîneur de judo qui lèche le sang coulant de blessures d'enfants mineurs. Vous voyez, on en est là. Ça peut arriver. Ces gens-là ne sont pas virés du jour au lendemain. Alors Patrick Roux est un ancien un athlète de haut niveau. Il a été champion d'Europe de judo. C'est un homme qui travaille à l'INSEP et qui est entraîneur et formateur d'entraîneurs. Voilà, un homme qui réfléchit sur ces questions et qui a notamment, on peut le retrouver facilement sur Internet, lorsqu'il s'exprime dans le cadre de l'interrogatoire de l'enquête qui a eu faite par la commission parlementaire sur les violences sexuelles dans le sport. Il s'est exprimé assez longuement, il est très engagé sur ces questions, il a monté une association qui s'appelle Artemis, qui fait un travail tout à fait remarquable sur ce plan-là.
Donc tu démontres bien dans le film qu'il y a des violences physiques, mais qu'il y a quoi, de la maltraitance physique, que tu as bien décrit, qu'il y a aussi beaucoup de psychiques, de menaces, de dévalorisation des jeunes athlètes, quoi, qui sont des enfants, des ados. Est-ce que c'est structurel pour toi ou est-ce que c'est de temps en temps dans beaucoup de sports mais pas tout? Comment ça se passe?
Alors je crois que la conclusion est qu'il s'agit d'un problème structurel sans aucun doute possible. Il y a des facteurs qui sont communs et qui aboutissent à la commission de violences sexuelles, qui sont ceux de l'emprise, qui sont ceux que j'allais dire qui sont bien connus pour tous ceux qui se penchent sur ces questions depuis quelque temps, ils commencent à être connus, mais c'est effectivement le transfert d'autorité des parents, la conscience aveugle des parents, c'est l'autorité de l'entraîneur qui est celui qui détient les clés du succès, c'est à un moment donné la volonté absolue d'obtenir des résultats qui sont par définition toujours à dépasser. C'est les attentes du public, de nous tous, qui voulons toujours plus d'exploits. Voilà, ça peut être un pressing économique aussi, lorsqu'il y a des sports qui peuvent amener à des positions de stars très très bien rémunérées. Donc tous ces facteurs-là amènent l'enfant à se taire. Et il se conjugue ces facteurs aussi, évidemment, avec une activité qui est une activité évidemment qui sollicite le corps. Et ce dont on se rend compte, ce dont je me suis rendu compte, c'est que les dommages physiques sur le corps sont dans une proportion, atteignent des chiffres absolument ahurissants. Les blessures à la colonne vertébrale, les fractures de fatigue ou les déplacements au niveau des vertèbres lombaires, c'est plus de 30%, certains disent 50% dans la gymnastique de haut niveau. Donc, et ça qui n'empêche pas l'entraînement. Les les problématiques d'ostéochondrite sont extrêmement fréquentes dans tous les sports qui sollicitent les articulations. Et quel sport ne sollicite pas les articulations? Donc, je veux dire, tous les genoux des footballeurs passés 40 ans sont dans des états catastrophiques, tous. Bon, donc, à mon avis, je pense qu'on doit... La question se pose pour la santé des adultes, mais la question se pose quand même beaucoup pour la santé des enfants. Est-ce qu'il faut considérer qu'il est normal qu'une jeune fille à 11 ans fasse 30 heures d'entraînement, plus 18 heures de cours, plus une douzaine d'heures de compétition le week-end, sans compter les trajets entre les deux? Tout ça en étant éloignée quand elle va dans les familles d'accueil... qui sont parfois bien intentionnés, parfois mal intentionnés, tout ça avec un pressing et des attentes des entraîneurs, des parents, du club. Enfin, quel adulte supporterait une vie de cet ordre-là, avec 50 heures de travail par semaine et en travaillant en plus le week-end, avec la peur d'être éjecté en permanence? Qui supporterait ça? On est complètement en dehors des clous par rapport à la Convention des droits de l'enfant l'immense majorité des pays du monde a signé. Donc, le droit au repos, le droit à l'éducation, le droit à un environnement sain et bienveillant, mais tout ça n'est absolument pas respecté dans la majorité des conditions d'entraînement des enfants dans le niveau.
Alors, on a en ligne aussi, Pierre-Emmanuel, Simone Thierrot, qui a été handballeuse professionnelle chez les Valides avec un handicap invisible. Je crois, Simone, que dans ton livre, tu parles de cette douleur qu'il faut taire quand on est jeune ou moins jeune d'ailleurs, et qu'on est dans le sport de haut niveau.
Oui, j'en parle beaucoup parce que moi-même, je l'ai vécu. C'est vrai que pour moi, la prise en charge des jeunes joueurs et joueuses, pour moi en tout cas, il n'y avait pas grand-chose qui fonctionnait. Après, c'est vrai que j'explique, je suis rentrée dans cette bulle du haut niveau assez jeune, donc à 14 ans, j'en suis ressortie à 25 ans. Et en fait, pendant toute cette période-là, il se passait des choses incroyables, mais tout le monde le voyait, mais personne ne disait rien. C'est comme si on est dans le déni et c'est une fois sorti de là à l'âge de 25 ans que c'est comme si j'enlevais le voile sur mes yeux et je viens de réaliser tout ce qui venait de se passer en fait toutes ces années. Et pour moi, c'est vrai que les parents, ils font énormément confiance au club, ils nous laissent partir, donc on n'a plus trop de suivi de nos parents et les clubs qui sont censés nous gérer. Mais moi, j'explique par exemple que dans le monde du handball, on n'a pas des horaires comme tout le monde, on ne fait pas du 8h-17h, on revient des matchs assez tard, à 2h, 3h du matin, et moi et des coéquipières, ça nous est déjà arrivé plusieurs fois de se retrouver sur des parkings à 4h du matin, avec personne pour nous ramener, les dirigeants, les managers qui prennent leur voiture, qui partent direct dès qu'on descend du car, et ils ne se retournent même pas pour savoir qui irait sur le parking. Enfin, plein de choses comme ça. On te demande de la performance, mais il n'y a rien qui est mis en place pour être performant finalement, parce que quand moi j'ai quitté l'Île-de-France, ensuite on va dans d'autres villes, les transports ils finissent à 20h, nous on a entraînement tard le soir. Et c'est vrai qu'on a déjà ce stress de comment je vais aller à l'entraînement et comment je vais revenir de l'entraînement, sachant que quand on signe, il nous explique bien, oui, il y aura toujours quelqu'un pour nous ramener à l'entraînement, il y aura toujours quelqu'un pour nous déposer. Et une fois arrivé dans le club, pas du tout. Donc plein de petites choses comme ça. Moi, il m'est arrivé aussi d'aller jouer dans un club. C'est juillet, août, c'est la période de préparation physique. Donc c'est là où on a le plus d'entraînement, hein. Et moi, il m'est déjà arrivé de dormir un mois et demi sur un matelas par terre en colocation avec une autre jeune joueuse, alors que voilà, c'est un club l'un des meilleurs budgets de France. Et en fait, ils vont pas mettre d'argent sur les jeunes. Et tout ça, je l'ai vécu. On ne disait rien, mais c'est vrai qu'une fois sortie de ce monde-là, je me dis mais comment j'ai fait? Pourquoi j'ai accepté tout ça? Et c'est vraiment pas normal, quoi.
Dans l'émission de début d'année qu'on avait faite, on avait fait sur cette relation parents-enfants-entraîneurs. Pierre-Emmanuel, tu interroges des parents ou tu donnes la parole à des parents dans ton documentaire.
Alors, je donne la parole à des parents qui, effectivement, montrent quand même une volonté de réussite de leur enfant qui est souvent très claire. Hein. Alors ils sont catastrophés quand ils réalisent ce qui se passe, mais je crois que ce sont des parents qui, on le voit notamment pour la petite jeune fille qui est Jacqueline, la petite allemande sortie de l'UNICO qui a 11 ans en patinage artistique en Bavière. On voit un père qui est un entrepreneur, qui dit pour moi la réussite c'est très important, il faut se battre, il faut réussir, enfin avec un discours assez martial et extrêmement dynamique. D'un côté, et de l'autre côté, une maman qui est russe et pour qui qui était elle-même sportive à assez haut niveau et pour qui le patinage artistique était une religion. Elle l'explique assez bien. En Russie, c'est une religion. Donc, quel choix véritablement à l'enfant? Comment elle a été mise, comme beaucoup de jeunes filles, hein, parce que le patinage artistique et la gymnastique, c'est quand même les sports qu'il faut commencer ou que l'on commence. Qu'ai-je dit qu'il faut commencer? Non, que l'on commence en général extrêmement tôt. Mais quel choix véritable à l'enfant à 3 ans ou 4 ans? Les enfants doivent faire plaisir à leurs parents à 3 ans ou 4 ans, et même après d'ailleurs. Voilà. Donc, de quoi parle-t-on là quand on parle de la volonté de l'enfant? Évidemment que l'enfant ensuite, quand il a investi toute sa vie, il se retrouve à 12 ans, 13 ans, 14 ans, que ça fait 10 ans qu'il a sacrifié sa scolarité, son temps, ses week-ends, qui sait que ses parents ont investi du temps et de l'argent de façon considérable, qui sait que les frères et sœurs ont pâti du temps qui a été investi par les parents eux aussi. Quel choix à l'enfant de dire je n'en peux plus, je prends des claques, j'ai faim, j'ai des vertiges, j'ai mal partout, il se tait évidemment. Et quand il va voir le soi-disant personnel médical, comme c'était le cas par exemple au club de Marseille, hein, c'était le surnom du médecin au club de Marseille, quand les gamines allaient voir pour des ostéochondrites, c'était le docteur Doliprane. Vous voyez ? Donc voilà. Alors que quand certaines jeunes filles sont allées voir le chirurgien orthopédique à la Timone à Marseille, il leur a dit c'est un scandale l'état dans lequel vous arrivez. Vous auriez dû venir il y a un an. Voilà. Parce qu'on laisse traîner, parce que les enfants taisent leur douleur. Qu'est-ce qui se passe dans le très haut niveau? Si à un moment donné, les problèmes d'ostéochondrite, par exemple, sont extrêmement fréquents, qui sont des problèmes au niveau du cartilage dans les articulations, avec la croissance, les cellules se soignent d'elles-mêmes, ça se soigne très bien, mais ça se soigne par du repos. Et par du repos, hélas, long. Mais qui peut se permettre de ne pas s'entraîner pendant six mois? Personne. Donc les enfants le savent. Donc ils se taisent. Donc les blessures empirent. Voilà. Donc c'est un système à revoir très profondément, parce que le niveau de dommage est intolérable. Et les grandes stars commencent à le dire. Les Thierry Henry, les Phelps, les Simone Biles, les Naomi Osaka disent « on n'en peut plus ».
Donc, il faut les écouter. Et tu leur donnes la parole dans le documentaire. On remercie aussi Simone Thiraud d'avoir pris la parole sur ce sujet délicat. Donc je rappelle qu'il faut regarder le documentaire sur Arte le 23 juillet, et je pense que ce sera sur la plateforme aussi, Pierre-Emmanuel.
Je pense que ce sera sur YouTube, la chaîne Arte de YouTube, avant le 23 juillet, je pense une semaine avant. Voilà.
J'ai eu la chance de le voir et je vous le conseille vraiment.
Merci beaucoup.
Et j'espère que ça fera réagir tout l'écosystème du sport, les fédérations notamment. Merci à toi.
Merci à vous tous. Merci à toi, Karine.
Tess, tu voulais mettre en avant les illustratrices aussi du livre, c'est le moment.
Oui, tout à fait. On a beaucoup parlé de la partie plus journalistique, mais il y a un réel travail artistique qui a été fait par les deux jumelles Anne et Lucille Como, qui ont fondé ensemble la Jumes Factory et sont deux illustratrices et graphistes de talent et travaillent avec nous depuis maintenant plusieurs années et de plus en plus dans le sport. Donc c'est à elles qu'on doit la belle couverture du livre, mais aussi le travail de chaque portrait et l'identité de chaque portrait. Et elles s'étaient fixées comme objectif de faire de chaque image de sportive un poster. Et donc elles ont vraiment mis la même dose de travail dans toutes les photos qu'elles ont pu traiter, qu'elles soient de très très bonne qualité ou issue d'archives retrouvées dans un grenier par des para-championnes.
Donc effectivement, c'est un très beau livre. Tous les livres dont on a parlé, c'est à lire et à regarder. Je voulais vous signaler, parce qu'on est dans une période particulière aussi. Alors vous avez fait, il y avait une tribune d'ailleurs dans Merci Alice de champions pour Ensemble pour l'égalité, l'appel des champions en faveur du sport féminin. On reçoit beaucoup d'initiatives dans cette période électorale. Alors, je voulais vous parler de l'appel du monde du sport pour le vote et contre l'extrême droite qui est sorti dimanche dernier dans l'équipe. Et il va y avoir plusieurs initiatives à la suite de cet appel. Il y a une pétition sur change.org. La jeunesse et le monde du sport se mobilisent face aux dangers des extrêmes. Il y en a une qui va sortir des association d'éducation populaire dont on vous fera, elle doit sortir ces jours-ci, donc on vous la transmettra aussi sur les valeurs de société juste, solidaire et écologique. Femme journaliste de sport d'ailleurs, et peut-être vous aussi, il y a une manifestation avec 180 associations féministes auxquelles s'associent donc des associations dans le sport. Sonner des alertes féministes contre l'extrême droite, ça c'est le 23 juin à 14h30, place de la République. Il y en aura beaucoup d'autres, on transmettra. Merci en tout cas à nos cinq invités, Tess Armand, Marie-Lopez Vivanco, Marc Davidovici, Simone Thierrot et Pierre-Emmanuel Luneau d'Orignac. Un grand merci à Olivier Grieco pour la réalisation. Nous vous remercions par avance pour vos annonces, remarques et questions sur le chat, sur le canal Vivons Sport, sur le compte Facebook de l'émission, sur mon compte Twitter X et mon compte LinkedIn Karine Bloch. Nos prochaines émissions de juillet seront des émissions spéciales pour les Jeux. Pas de commentaires d'épreuves, mais la mise en lumière d'activités à impact autour des Jeux, de personnalités qui méritent de sortir de l'ombre et qui peuvent nous éclairer sur ce qui se joue autour des performances. Bref, de ce qui n'est pas assez mis en valeur à notre goût et qui mérite souvent d'être apprécié, parfois d'être dénoncé. Bon sport à toutes et à tous. À très vite.
Et Lorenzo qui accélère, Lorenzo qui termine, Lorenzo est championne du monde.
Pas ça, Zinedine. Oh non, pas ça.
Regardez, l'équipe de France qui fait la saga.
Saga Africa, ambiance de la
Has the power to change the world. It has the power to unite people.